Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks.
Non, 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 nous ne sommes pas des terroristes.
Divergence. Toujours pas.
Toujours pas, non. Bonjour Pascal.
Bonjour Gilles. Bonjour à toutes. Et à toutes qui nous écoutez.
À toutes et à toutes, hein, on voit bien le vieux charmeur qui se cache derrière toi. Au sommaire de cette divergence numérique, que vous pouvez écouter évidemment sur les ondes de Divergence 93.9, mais aussi sur les ondes de Radio Escapade 103.3, 102.0 et 104.1, et sur le 88.7.8 et 98.6 de Radio Larzac. Nous ne le répéterons jamais assez, quoique c'est fatigant de le répéter. Au sommaire donc de cette 173e, ce sera la revue de presse de l'April avec Luc, Manu et Nico. On parlera de fleurs pèlerins chez Mozilla, de la NSA, de l'achat patriotique, de la ville de Berlin, de comment aider le logiciel libre quand on ne sait pas coder, et puis la loi sur l'école et le logiciel libre. Enfin, l'intérêt des architectures cloud ouvertes. Et puis ensuite, on rentrera dans les sujets qui font mal avec Jeanne Tadeuse, chargée des affaires publiques à l'April, sur le brevet unitaire qui reviendrait, on va dire, dans le cheval de Troie du projet de loi enseignement supérieur et recherche, et puis du logiciel libre et de la refondation de l'école. Le Sénat qui va probablement voter le 25 juin l'adoption conforme du projet de loi de refondation de l'école de la République, enterrant la priorité au logiciel libre qu'il avait lui-même proposé dans un premier temps. Merci le gouvernement. Et puis on parlera ensuite assez brièvement de la finale du concours Crée ton appli libre, un concours organisé depuis le début de l'année par l'ADULACT, l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales. Son président, François Elie, sera avec nous au téléphone pour un point à chaud. Enfin, eh bien, on parlera de ce qui se passera à Kawenga pendant 24 heures du 21 juin 17h au 22 juin 17h. Il y aura quand même une fermeture au public entre 2h et 9h du matin. 24 heures de l'imprimante 3D organisée par l'association LabSud, dont est membre Jacques Vatelier. Il sera avec nous pour nous présenter eh bien, ces 24 heures qui vous proposeront d'aller du dessin jusqu'à l'objet imprimé, animation, présentation, atelier, découverte de l'i3D, modélisation d'objets, impression d'objets, les imprimantes 3D auto-répliquantes, la clinique des imprimantes 3D avec le docteur Jean-Philippe C, fondateur de LabSud, et puis une construction d'une imprimante 3D de A à Z. Côté musique, eh bien, on aura un excellent groupe, il s'appelle OPA, ils viennent bien de différentes régions de l'immense zone de l'ex-URSS, se sont rencontrés à Saint-Pétersbourg, capitale multiculturelle de la Russie. Une musique qui exprime liberté, euphorie, un côté folk-rock, mais avec tout plein d'autres influences et beaucoup d'humour et une certaine classe, une certaine virtuosité aussi. On écoutera des extraits de leur album sorti l'année dernière. L'album s'appelle Nakourla et ils en ont sorti un autre depuis. Allez faire un tour sur www.o-p-a.ru pour tout savoir. Mais pour l'heure, c'est la revue de presse de l'April que l'on retrouve.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, la semaine 24, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, notre sommaire.
On a 7 articles cette semaine, une semaine assez tranquille finalement. Donc on va vous parler de Mozilla et de ses nouveaux locaux, la NSA, c'est un gros sujet, les achats patriotiques, Berlin et le logiciel libre, comment aider le logiciel libre, un sujet qu'on a déjà vu mais ça fait pas de mal, l'école bien sûr, et finalement une discussion sur le cloud et autres sujets afférents.
ZDNet.fr, fleurs pèlerins chez Mozilla, le logiciel libre, garant de la souveraineté numérique, un article de Thierry Noisette.
Donc ça, c'était la grosse fête la semaine dernière, un beau pince-fesse.
La fondation Mozilla a inauguré ses nouveaux locaux à Paris.
Donc Mozilla, ce sont eux qui font Firefox.
Hein, Firefox, entre autres, Thunderbird et plein d'autres choses.
Non, Thunderbird, ils ont arrêté, mais...
Firefox, c'est pas mal.
Et Firefox OS.
Exactement.
Ouais, Fleur Pellerin était présente lors de cette inauguration et a fait un discours assez libriste, très orienté libre.
Il y a même une vidéo que vous pourrez regarder. Je crois que c'est la vidéo de son discours, mais je ne l'ai pas encore ouvert.
Oui, bah on n'y est pas allé. On était invités, mais on était un peu coincés par autre chose. Donc on a raté le pince-fesse et le discours de la ministre.
Et Dieu sait qu'il y avait du beau monde, parce qu'il y avait aussi Michel Baker. Hein.
Oui, donc Michel Baker, qui est président de la Fondation Mozilla. Elle n'est pas dans la partie exécutive entreprise, puisque Mozilla est quand même gérée vraiment comme une entreprise, mais plus sur la partie justement libre, idéale, etc. C'est une juriste à la base, et elle est dans le projet depuis le début. Hein. C'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps.
Une grosse pointure, tout comme Tristan Mito, Frédéric Couchet, qu'on apprécie, Gisèle, Benjamin Bayard.
Ceux-là ne sont pas vraiment cités dans l'article. Il y a par contre les structures, hein. On parle de l'April, de la Quadrature et de FDN. Donc voilà, bon, les locaux pètent pas mal parce que c'est classé, c'est des locaux avec une hauteur... Mais ils n'ont pas le droit de faire un seul trou dans les murs, ce qui explique qu'ils ont eu ces locaux pour pas trop cher, parce qu'il y a quand même des contraintes très importantes.
Donc bah, bravo pour eux, parce que ça leur permettra d'héberger une trentaine de développeurs, ce qui n'est pas rien.
Plus parce que l'article dit qu'ils en ont 30, une trentaine pour l'instant, et il y a encore pas mal de place, donc ça laisse la possibilité, en tout cas la perspective, d'avoir beaucoup plus de monde.
C'est pas mal. Bref, j'attends avec impatience d'aller jeter un œil, parce qu'après tout, on connaît du monde dans ces milieux-là, et on ira les interviewer.
Numérama, la NSA profiterait des failles de sécurité avant leur divulgation aux clients, un article de Julien L.
La NSA.
C'est l'agence de renseignement américain.
Alors c'est No Such Encore. Agency, il me semble.
Peut-être National Security Agency. Bon, on en a déjà entendu parler il y a quelques temps avec le contrat Open Bar, où on pensait déjà qu'il y avait des failles, enfin des backdoors qui étaient placés pour faciliter les accès à la NSA dans les systèmes d'information de certains États.
Donc comme le ministère de la Défense français.
Par exemple. Et là, en fait, il y a un nouveau lièvre qui a été soulevé, c'est qu'apparemment la NSA profiterait de la divulgation des failles de sécurité avant tout le monde, soi-disant pour protéger le système d'information américain avant les autres. Mais en fait, ils pourraient aussi s'en servir pour pirater, pour s'introduire chez les autres et voir essayer de sortir des données ou des choses comme ça.
Comme c'est bizarre. Hein.
Donc ça fait suite aux révélations lancées par Snowden, je crois, qui est donc un ancien employé de la NSA américain et qui a sorti des informations parce qu'il y a des programmes de surveillance.
Le mot-clé, c'est PRISM, il me semble.
PRISM, tout à fait. Donc ça fait grand bruit depuis une semaine. Alors c'est pas directement lié à notre sujet logiciel libre, quoique, puisque si on veut se mettre à l'abri de tout ça et contrôler son informatique, on a besoin de logiciels dont on contrôle le code source. L'histoire de l'accord Open Bar le montre bien. Si on sait pas ce qu'il y a dans le code source, on sait pas ce que fait le logiciel.
C'est la conclusion de l'article qu'on apprécie pour ça.
Donc restez branchés là-dessus, hein, cette histoire, on n'a pas fini d'entendre parler. Journal du Net, achat patriotique, si on passait à la pratique, par Alexandre Zapolski. Donc c'est une tribune, plus qu'un article.
Oui, mais c'est une tribune que j'ai bien aimée, parce que ça enfonce des clous sur un logiciel en particulier, un appel d'offres en particulier, qu'on a raté dans le monde du logiciel libre.
Donc là, c'était donc Grenater, en fait, qui est un groupe d'intérêt qui rassemble toutes les universités, tout ce qui est recherche en France. Ils ont eu besoin de renouveler leur parc informatique, enfin, en tout cas le logiciel sur la partie messagerie, et ils sont partis chez un énorme logiciel propriétaire, privateur. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, apparemment. Ça a été fait un peu encore en cachette dans un coin décidé par un conseil d'administration un peu obscur. Et les entreprises, là, c'est une lettre ouverte à nos membres en demandant, en disant, vous avez demandé à ce qu'on achète français, à ce qu'on fasse français. Et puis là, à chaque fois qu'on a un appel d'offres dans le marché de l'informatique, ça part à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Donc, s'il vous plaît, pensez à nous et faites bouger les choses, quoi.
Il le met en demeure de joindre la pratique à la parole. Donc il faut rappeler que Alexandre Zapolski est le patron de l'Inagora.
Oui, donc c'est pas rien dans le marché justement français.
Et dans le marché public, puisque l'Inagora a pas mal investi ce marché-là. Donc bon voilà, en tout cas ce qu'il dit est tout à fait justifié et intéressant, cette question là du patriotisme économique et on parle beaucoup si ces temps-ci d'évasion fiscale, tout ça, là il y a vraiment des choses qui se passent de ce côté-là, c'est en train de faire réfléchir.
Oui, je rajouterais, c'est en écho à ce que disait Fleur Pellerin, c'est bien d'aimer mais l'important c'est les preuves d'amour. Et donc à un moment, ça c'est une preuve de désamour de l'administration, des institutions, c'est un acte manqué ou un acte raté, c'est dommage.
Le monde informatique, la ville de Berlin rejette encore le passage à l'open source, un article de Jean Elian.
Donc c'est là aussi un peu en écho avec ce qui s'est passé notamment à Munich, et ils en parlent dans l'article, mais là c'est encore plus gros, c'est important symboliquement, c'est la capitale de l'Allemagne, et bah, on a raté encore un truc.
Ouais, et c'est la deuxième fois en plus à Berlin, la proposition de loi avait déjà été faite il y a quelques années, donc c'est les Verts qui est l'opposition là-bas qui avait proposé ça, de migrer 25% du parc informatique de Berlin à l'open source.
Donc ce qui fait quand même quelque chose, donc il y a 68 000 postes sur la ville, donc c'est pas rien.
Et puis bah, ça a été refusé, donc ils ont préféré mettre l'accent, on parle de standardisation, donc tout ce qui est la partie format ouvert et le cloud gouvernemental. Ça rappelle les choses en France, mais...
Bon, l'article dit aussi que c'est pas très spécifique et qu'on voit pas exactement où ils veulent en venir. En tout cas, donc, c'est un truc qui a été tenté et qui a été raté. Donc en Allemagne, il y a eu donc Munich qui a réussi le truc et qui affirme économiser 11 millions d'euros, je suppose, par an. Une autre ville dont on avait parlé il y a fort longtemps,
c'était Fribourg,
voilà, qui avait fait par contre marche arrière. Donc ce qui montre que passer au logiciel libre, c'est pas simple. C'est surtout des organisations importantes comme ça. C'est pas un machin qu'on fait en claquement de doigts, c'est un vrai projet. Il faut se donner les moyens de le faire et ça vaut le coup. Mais c'est pas un machin trivial non plus. Framablog, comment aider le logiciel libre quand on ne sait pas coder? Un article de Duncan McKean, donc traduit par le Framablog.
Donc c'est un sujet qu'on a déjà vu pas mal de fois, mais c'est quand même intéressant de revoir.
Pas tant que ça, mais pour moi il n'est pas abordé sous cette forme-là si souvent que ça. Et voilà, donc le logiciel libre, on sait, c'est le code, etc. Donc code libre et ouvert, donc les informaticiens peuvent s'en saisir, mais... Que faire comme moi, on n'est pas informaticien, eh bien on peut contribuer malgré tout.
Donc alors, qu'est-ce qu'il propose justement pour contribuer?
En fait, on peut faire énormément de choses. Un logiciel libre, c'est pas que du code. La chose principale qu'on peut faire, c'est utiliser le logiciel. Le fait de l'utiliser, ça fait déjà une promotion. Ça montre qu'il y a des utilisateurs derrière. Ça peut vraiment aider les différentes communautés à se faire connaître. Il y a toute la partie gestion des bugs. Comment déclarer un bug? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Reporter les problèmes qu'on a en utilisant les logiciels. Donc il y a toute la partie écriture de documentation, rédiger les manuels, faire les traductions aussi de sites internet ou des documentations. Aussi les compétences qui sont techniques, mais pas uniquement code. Donc ça va être les images, le design, la sonorisation, et puis après il y a toute la partie communication à l'extérieur, donc avec faire l'évangéliste par exemple dans des organisations auprès du gouvernement, ou des dons, ou puis aussi faire preuve de professionnalisme.
Mais ça c'est le conseil général, on reproche aux communautés de faire des trucs un peu amateurs, et donc son conseil dit faites propre, faites pro.
Donc a priori des bonnes choses, allez jeter un œil, honnêtement, le libre ça paraît un peu touffu, un peu geek, un peu poilu, mais non, il y a plein de choses, c'est intéressant.
Journal du Net, loi sur l'école et le logiciel libre, un lobbying intense, qui parle au nom des entreprises du libre, par Patrice Bertrand.
Donc encore une tribune.
Et oui, et d'un chef d'entreprise des entreprises du libre.
Mais qui représente aussi CNLL.
Donc qui est une association d'entreprises qui font du libre. Et ben là, c'est autre coup de gueule sur un autre sujet, qui est cet amendement qui avait été proposé sur la loi éducation pour mettre le logiciel libre comme prioritaire dans l'éducation, machin qui a été sabré par le gouvernement, sous la pression de l'AFDEL, dont on sait que Microsoft pèse assez lourd dans ce machin, et qui est une association d'entreprises qui font du propriétaire, mais également de Syntec, qui se veut le représentant de toutes les entreprises du numérique.
Et là, on sent un peu le coup de traître parce que personne n'a été consulté. Le Syntec se revendique comme représentant aussi des entreprises qui font du logiciel libre.
6% des entreprises sont dans le libre. Et c'est ce que fait remarquer Patrice Bertrand en disant si la Syntec, au nom de toutes les entreprises, y compris les 6%, même si ces 6% sont minoritaires, elle n'a pas à s'amouer le truc et à dire au nom des entreprises du libre, je suis contre cet amendement. Car on s'en doute, les entreprises du libre, elles étaient plutôt pour.
Et puis surtout, le problème, c'est que la Syntec a vraiment été assez loin, puisqu'ils ont envoyé une lettre ouverte au gouvernement pour demander le retrait, en tout cas la correction de cet article de loi. Ils se sont vraiment exprimés au nom des sociétés des SS2L, et apparemment qui n'ont pas du tout été consultés, donc ils ont découvert ça presque après le vote.
Petit détail, c'est Zapolsky, dont on a parlé un peu avant, qui dirige le groupe au sein du Syntec, qui est responsable du logiciel libre. Et il le dit, c'est remonté dans l'article, il n'a jamais été consulté à ce propos-là, on a vraiment laissé toute cette portion, ces 6%, de côté.
Ouais, et en plus, le double effet qui se coule de la lettre de la Syntec, c'est que la Syntec se sert des arguments du libre pour retourner tout ça, une espèce de semoule infecte avec tout ça, pour essayer de retourner les neurones de nos gouvernements et demander le retrait de cet article de loi.
En conclusion, Patrice Bertrand lui fait la promotion du CNLL en disant voilà, on est des entreprises du libre, on se fait poignarder au sein du Syntec, donc ça justifie notre existence et l'importance qu'on soit là. Oui, je pense qu'il a tout à fait raison de faire la promotion de son truc.
Petit détail, a priori, ça a été voté en l'état, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de priorité au logiciel libre, et j'ai cru comprendre que là, c'était fait maintenant.
C'est mort de chez mort. Bon, on espérait la semaine dernière que le coup soit rattrapable. Mais
oui, sur la deuxième lecture.
Oui, bon, voilà. Mais ça a eu l'avantage de faire beaucoup de bruit, donc ce qui montre que les choses bougent et que même si les décisions sont pas là, c'est valable sur le truc Zapolsky tout à l'heure, ça fait du bruit. Ils prennent des positions de principe comme la circulaire Aero et d'autres. C'est pas suivi dans les actes et la sanction tombe, et mine de rien, c'est le genre de choses qui permettent d'avancer petit à petit.
Et ça fait sortir aussi le problème des lobbies, et là en plus, entre guillemets, de lobbies qui se tapent dessus en montrant bien qu'il y en a qui parlent pour la place d'autres. Je pense que ça peut aussi donner pas mal de réflexions pour les prochains articles de loi.
Silicone.fr, quel est l'intérêt des architectures cloud ouvertes ? Un article de Yves Grandmontagne.
Alors, c'est même plus une suite d'articles, parce qu'en fait, il y a un petit bouton suivant tout à la fin, et ça va assez loin, il y a pas mal de choses.
Donc c'est un article qui essaye de faire le point sur qu'est-ce qu'on a comme avantage à utiliser un cloud ouvert, un cloud libre. Donc là, en l'occurrence, c'est OpenStack. Donc on connaît bien ça à l'April, puisque c'est quelque chose qu'on utilise.
Oui, et puis on en a parlé dans la revue de presse plusieurs fois déjà.
On en parle pas mal. Et donc, bah, ils essayent de faire le point de quel avantage de OpenStack par rapport à d'autres solutions. Donc bah, essentiellement, c'est un peu toujours les mêmes choses que dans le libre. Hein. C'est d'essayer de se sortir de l'enfermement technologique, d'avoir une longueur d'avance aussi par rapport aux solutions propriétaires. Et de se mettre en avant, la France est aussi bien calée là-dessus, donc faut y aller, quoi.
Donc moi, je dirais que c'est un article et une suite d'articles assez poilus quand même, hein. Ça parle aussi de réseaux sociaux, d'entreprises, mais si vous êtes un petit peu dans ce domaine-là, que vous voulez approfondir, allez jeter un œil, mais c'est vrai que bon, c'est quand même assez costaud.
Très bien, et ben merci à vous deux, on a fait le tour, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine,
ouais. Salut tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposé par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Divergence numérique, 173e émission sur les ondes de Divergence, Radio Larzac et Radio Escapade. À présent, une petite musique de nos soviétiques du jour, nos ex-soviétiques. Le groupe s'appelle OPA, c'est sous Creative Commons by NCND 3.0. C'est sorti chez le label Clinical Archive et l'album s'appelle Nakurla. C'est assez excellent. On va écouter Russian State Museum's Lottery, qui était le quatrième titre de cette EP. Depuis, ils en ont sorti un autre, o-p-a.ru, pour tout découvrir de cet excellent groupe.
Музея, а лотерея. А мне врач сказал сегодня о гонорея. Никому я больше в жизни не поверю. Я по бабам, па-па-па-пам. Я по бабам, па-па-па-пам. Я по бабам, я по
Russian State Museum's Lottery. C'est le groupe OPA qui nous accompagne aujourd'hui dans cette divergence numérique. Et on va parler bien avec Jeanne Tadeuse de l'April, des choses qui fâchent à présent. Nous sommes en ligne avec Jeanne Tadeuse, chargée des affaires publiques pour l'April. Bonjour.
Bonjour Gilles.
Force est de constater que la plupart du temps qu'on s'a au téléphone, c'est plutôt pour aborder des sujets douloureux, plutôt des mauvaises nouvelles. Récemment, on a eu notre lot entre divers thèmes, mais on va se contenter d'en aborder deux ici, à savoir commencer par la suite du feuilleton de l'article numéro 7, si ma mémoire est bonne, qui a été dégagé par l'amendement numéro 339. Un bref rappel de l'importance de cet enjeu, à savoir une priorité au niveau de l'éducation nationale au logiciel libre qui a été dégagé par le gouvernement. Pour rappel, le gouvernement dont le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait lui-même tenu les promesses du candidat Hollande avec son annonce en faveur du logiciel libre. Et là, ce qui nous amène ici, c'est que le Sénat va probablement voter le 25 juin l'adoption conforme du projet de loi sur la refondation de l'école publique. Alors, est-ce que cela veut dire que cette bataille est terminée et perdue ?
Alors, la bataille n'est jamais complètement terminée ni complètement perdue. Mais effectivement, oui, donc il s'agissait d'un amendement donc au texte de la refondation de l'école, amendement qui avait été proposé en commission au Sénat en première lecture, qui avait été adopté en commission. Lors du vote en séance publique au Sénat, ça n'avait visiblement posé aucun problème. Idem en seconde lecture, donc c'était reparti à l'Assemblée. La disposition donc qui demandait de mettre la priorité sur le logiciel libre avait également été adoptée. Et par contre, en séance publique, on a vu l'arrivée d'un amendement du gouvernement d'un seul coup qui vidait complètement de sa substance cette disposition. Donc c'était en fait l'alinéa 7 de l'article 10 de la loi. Donc effectivement, c'est un recul, c'est bien dommage. On a bien vu par ailleurs un lobbying assez intense de la part des associations de logiciels propriétaires pour vraiment revenir là-dessus. Et donc aujourd'hui, on a appris qu'il semblerait que le Sénat ait décidé de voter le texte en seconde lecture sans aucune modification, ce qu'on appelle un vote conforme. Et donc, une fois que ce vote sera fait, ce texte-là sera validé. Donc c'est bien évidemment très regrettable que le Sénat n'ait pas cherché à mettre à faire revalider cette disposition qu'il avait pourtant lui-même souhaité lors des étapes précédentes de la loi, même si on peut imaginer que c'est la surcharge du calendrier parlementaire qui pousse à cette décision de ne pas amender le texte. Mais malgré tout, on espère que le Premier ministre et le ministre de l'Éducation se prononceront et s'expliqueront un jour sur les raisons de ces... ne se recule. D'autant plus agréable que pour un service public de l'éducatif numérique, utiliser des formats ouverts et du logiciel libre en priorité semble quelque chose à la fois de cohérent, de réaliste et d'intéressant et d'important pour tous les citoyens de demain.
Oui, alors d'autant que c'est le ministre Payon avait lui-même justifié ce recul en arguant d'un problème juridique aux yeux des lois en faveur de la libre concurrence, etc. Or, cette question-là avait déjà préalablement été tranchée.
Oui, tout à fait. Alors, le ministre a argué de difficultés juridiques et d'incompatibilité avec le droit européen pour justifier le retrait de cette provision, ce qui nous étonne beaucoup, parce que dans d'autres pays européens, des dispositions de ce type ont été adoptées, ont été validées sans que ça pose de problème particulier. Et donc, nous, on serait curieux de savoir au moins quelles sont donc ces difficultés juridiques, vu que des pays comme l'Italie ont fait valider le même type de disposition exactement, par exemple.
Au niveau de la France, il me semble que le Conseil d'État, si je ne me trompe pas, avait déjà dans un cas, il y avait déjà un précédent pour lequel on avait dit que non, c'était pas anticoncurrentiel d'imposer l'usage de logiciels libres, etc. Puisque tous les professionnels de l'informatique peuvent s'y mettre, vu que c'est ouvert.
Oui, alors la décision du Conseil d'État effectivement est un petit peu différente, mais on considérait que les qualités en fait intrinsèques du logiciel libre, c'est-à-dire les quatre libertés, la possibilité donc d'études, d'usage, de modification et de redistribution. Déjà d'abord, c'était des caractéristiques, on va dire, juridiques, qui au contraire ouvraient la concurrence et non pas une caractéristique d'un produit précis qui au contraire la restreindrait et empêcherait de nouveaux acteurs d'émerger. Donc il a considéré que demander un logiciel libre précis, ça ne limitait pas la concurrence et que simplement ces caractéristiques-là n'étaient pas du tout problématiques au regard du droit de la concurrence.
concrètement, sur ce dossier-là, est-ce qu'avant le vote du 25 juin, ou même après éventuellement, au niveau des décrets d'application, ou que sais-je, la suite du processus juridique, il y aurait peut-être moyen de reprendre un cap raisonnable et intelligent ?
Ah, on peut l'espérer. Ce que nous, très clairement, on demande aujourd'hui à l'April, c'est d'avoir que le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, s'engage aujourd'hui à mettre en œuvre donc la circulaire Héro qui demande à envisager l'usage de logiciels dans les administrations et pourquoi pas au sein de l'Éducation nationale, au sein du nouveau service public du numérique éducatif qui va être créé, de mettre un plan d'action en faveur du logiciel libre. Puisqu'il dit que ce n'est pas du ressort de la loi, qu'il ne peut pas le mettre dans la loi pour des raisons juridiques, même si on ne les connaît toujours pas, une action volontariste au niveau réglementaire reste, elle, tout à fait possible aujourd'hui pour mettre en avant une priorité au logiciel libre, une priorité qui n'est pas une exclusivité, bien évidemment, mais au moins d'abord de considérer les solutions libres pour tout ce qui est éducation nationale. Et donc, on appelle vraiment le ministre à faire des propositions concrètes en ce sens, puisqu'il se dit lui-même en faveur du logiciel libre aujourd'hui.
Gardons espoir sur ce domaine, surtout pour les petites têtes blondes, pas si petites que ça, enfin, qui vont avoir l'usage de ces outils au collège. Aussi en matière d'éducation, on est encore loin d'enseigner le code à l'école, mais c'est un autre débat qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui, puisque la deuxième chose qui nous amène, c'est le retour du brevet unitaire. Il y a une abondante littérature qui démontre que le brevet en matière de logiciel, c'est plutôt toxique pour l'innovation, etc. On en voit les conséquences aujourd'hui avec les procès à coups de milliards de dollars qui opposent les géants de la téléphonie et autres. Là, il y a une espèce de cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on voudrait refaire venir des choses du brevet unitaire au travers du projet de loi enseignement supérieur et recherche. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un cheval de Troie, ce projet de loi ?
Oui, enfin, cheval de Troie, moi je dirais plutôt cavalier législatif, parce que le projet de loi n'a rien à voir avec le brevet unitaire. C'est un projet de loi sur l'enseignement supérieur et sur la recherche, donc qui effectivement recoupe un champ assez vaste, mais il n'y a absolument pas celui-là. Et donc en fait, dans ce texte-là, il y a un certain nombre de sénateurs qui ont déposé un amendement qui vise à autoriser la ratification d'un accord international sur les brevets dans le nouveau projet de loi, donc enseignement supérieur et recherche. Donc déjà, la méthode est cavalière, mais en plus, on a vraiment ce côté d'avoir un texte qui fait polémique, un texte qui est dangereux pour l'innovation, pour l'entreprise et pour le logiciel libre, qui serait donc ratifié comme ça, finalement, par le biais d'un autre texte, sans qu'il y ait le moindre débat là-dessus, etc. Alors que avec ce qu'on a avec le brevet unitaire, c'est un texte qui est potentiellement dangereux parce qu'il peut faire revenir les brevets logiciels. Alors, pas directement, effectivement, il n'y a pas de mention des brevets logiciels dans ce texte. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il donne tous les pouvoirs en matière de brevetabilité, c'est-à-dire de déterminer ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas, à un certain nombre d'organismes internationaux, dont l'Office européen des brevets, et à des juges spécialisés, donc finalement des gens qui travaillent dans les brevets également, sans qu'il y ait le moindre contrôle possible de la part d'une quelconque cour généraliste. Donc c'est-à-dire que ni la Cour de cassation, ni le Conseil d'État, ni le Conseil constitutionnel, ni la Cour de justice de l'Union européenne pourra avoir son mot à dire sur d'éventuelles extensions du champ de la brevetabilité ensuite. Donc là-dessus, très clairement, quand on voit que des organismes internationaux qui auront le pouvoir avec ce texte poussent pour avoir une brevetabilité du logiciel qui est de plus en plus étendue, on voit très clairement les dangers pour le logiciel libre aujourd'hui. Et là, au final, ce qu'on voit, c'est que le texte, il fait polémique, il y a plein d'entreprises qui sont prononcées contre, il y a actuellement déjà des recours qui ont été lancés devant la Cour de justice pour faire annuler ce texte. Enfin, il y a vraiment des juristes qui ont dit que c'était très dangereux en termes de respect des libertés fondamentales, etc. Et malgré tout, on a des dessinateurs qui donc veulent faire passer finalement sur un coin de table, discrètement par le biais d'un autre texte, la validation de ce texte. Donc la validation donc de cet accord international. Donc la méthode est problématique. Le sujet est quand même particulièrement sensible, donc il mérite au moins un réel débat. Et finalement, c'est ce qu'on cherche à éviter visiblement aujourd'hui au niveau du Sénat.
Pour rappel, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers avec ces bidules comme l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, INPI ou l'Organisation Mondiale, non pas du Commerce, mais de la Propriété Intellectuelle, l'OMPI, ou encore l'Office Européen des Brevets, en tout cas, ce sont des organisations qui sont autonomes, ne représentent pas les États, etc., qui se comportent comme des sociétés privées en quelque sorte.
Elles sont effectivement dirigées par les États dans le sens où ce sont les États qui siègent au conseil d'administration, Mais dans la pratique, c'est des traités internationaux avec beaucoup d'États qui sont généralement partis au traité. Et donc, de changer le texte fondateur, les traités, les accords qui en font la base, c'est extrêmement difficile. Et donc oui, aujourd'hui, on a des fonctionnaires internationaux dans ces organisations qui ont une liberté d'appréciation qui est non négligeable. Et plus encore sur la question des brevets, ce qui est important de noter, c'est que les personnes qui font partie de ces organisations souvent se connaissent et il y a un passage, on va dire, de l'une à l'autre qui est assez régulier. Juste pour citer un exemple, le sénateur qui cherche à faire passer l'amendement, qui est le premier à avoir signé l'amendement sur l'accord sur le brevet unitaire dans la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, c'est à la fois un ancien de l'Office européen des brevets, de l'Institut national de la propriété industrielle en France et de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Donc on a vraiment ce microcosme des brevets qui est à l'action et qui est très puissant là-dessus aujourd'hui.
Ça nous rappelle quand même fortement les banques qui sont à la fois juges et parties en quelque sorte quand les gens de Goldman Sachs deviennent des chefs d'État ou etc.
Juges et parties, c'est exactement ça. Alors je ne connais pas le système des banques, mais c'est exactement le système où on risque d'aboutir. Un système qui soit complètement hors de contrôle avec toutes les dérives en termes de brevetabilité que ça implique. Sur les brevets logiciels, mais aussi sur le vivant, sur les plantes, etc. Mmh. C'est-à-dire pas un hasard si d'autres associations, notamment je pense à Semences Paysannes, mais beaucoup d'autres, sur d'autres sujets, se mobilisent aussi contre ce texte aujourd'hui.
Au niveau de la suite législative de ce processus, quelles sont les échéances à venir ?
Les échéances à venir, c'est que dans la semaine, les amendements seront débattus sur le texte enseignement supérieur à la recherche. Donc probablement ces amendements donc sur le brevet unitaire. Après, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur ces amendements ni la commission. Donc on peut espérer, et c'est vraiment ce que demande April aujourd'hui, c'est que le gouvernement le rejette. Alors ne serait-ce que pour des conditions de forme, parce qu'il n'y a rien à faire dans ce texte-là, mais aussi sur le fond, parce que l'accord donc sur le brevet unitaire est particulièrement problématique. Mais donc c'est dans les prochaines semaines, et donc espérer que inciter les sénateurs et le gouvernement à repousser ces amendements et à discuter de ce texte-là à une date ultérieure et sur d'autres bases, en partant sur d'autres bases.
L'examen en sciences publiques a lieu le jour où nous enregistrons cet entretien, à savoir ce mercredi 19 juin.
Voilà,
donc et ben, il y aura des développements par la suite. En tout cas, ben, on espère qu'à l'April, il y a aussi des sujets qui sont positifs dans vos préoccupations du moment.
On en a, bien sûr, on en a. Mais ça, c'est le fait qu'il y ait des réels débats. Alors, ça peut sembler paradoxal, mais le premier sujet qu'on a abordé sur la refondation de l'école, le fait qu'on ait des amendements pour mettre la priorité au logiciel libre, qui soient mis en place par les sénateurs et que cette disposition semble au départ faire consensus avant qu'il y ait des lobbying intenses, c'est déjà un sujet pour nous extrêmement positif.
Puis aussi, votre nouveau local, je crois que vous êtes dans la peinture et les travaux.
Ah oui, on déménage effectivement la semaine prochaine, mais ça c'est plus une aventure interne. Prochain épisode, changement de locaux et nouvelle vie.
Très bien, merci beaucoup pour ces minutes sur ces sujets auxquels tout le monde devrait s'intéresser. C'est pour ça qu'on en parle dans Divergence Numérique. Merci beaucoup Jeanne et puis à très bientôt sur les ondes de Divergence FM. Et vous pouvez retrouver toutes les news de l'April sur april.org. Au sommaire, nous avons aussi ce qui se passe en ce moment du côté du siège de l'Adulacte. C'est aujourd'hui l'étape finale de leur concours Crée ton appli libre. Dans quelques petites minutes, on sera au téléphone avec François Elie pour un court interview. Et puis juste après, encore un petit peu de musique avec nos Russes du jour. C'est Jacques Vatelier qui nous présentera les 24 heures de l'imprimante 3D et l'association Lab Sud. Ça se passe du 21 juin 17h au 22 juin 17h avec une courte pause de 2h à 10h du mat le 22, 24h autour de l'impression 3D. Donc on en parle juste après un nouveau titre de nos Russes du jour. Ça s'appelle pas le groupe et c'est Ringtone.
столиц. Птицы, бабрики снесут свежих утренних яиц. Жарят семки на углях, а доставляют на район. Агрономы на полях ждут китов на телефон.
Le morceau s'appelait Ringtone et ça tombe plutôt bien puisqu'on est au téléphone avec François Ely. Bonjour.
Bonjour.
Alors on est ensemble au téléphone puisque aujourd'hui, eh bien c'est, on va dire, la finale de la première édition du concours Crée ton appris libre que l'Adulact a lancé. Ça avait démarré par les présélections le 18 mars 2012 et on peut dire que au niveau des candidatures, ça a bien fonctionné.
Oui, et c'est un concours qui est organisé par Adulac Projet avec le soutien de l'association Adulac pour essayer de... Alors c'est pour l'instant au niveau régional, pour essayer de stimuler des développements et des... dans l'esprit concours, puisqu'il n'y a plus les trophées du Libre de Soissons, donc on va essayer de relancer ça. Donc il y a 5 candidats en shortlist, on réunit les jurés aujourd'hui pour décider des gagnants.
Alors des projets autour d'outils métiers, comme c'est la vocation à la Dulact, peut-être qu'on peut les nommer. Je crois qu'il y avait un outil aussi à destination des crèches. On est resté dans le cœur de métier de la Dulact.
Oui, l'idée c'était, alors il y avait une double idée, à la fois faire des choses métiers qui soient utiles, mais là on avait un petit peu centré sur la connexion avec les élus, l'idée de travailler sur les tablettes. Pour donner un petit peu de sens à ça et peut-être stimuler les équipes.
Mmh. Alors, il y a un jury, évidemment, qui compte divers représentants de la Dulac, vous-même, ou Pascal Kuzinski, ou encore Pascal Fedel, ou Frédéric Lasserand, mais aussi le conseiller régional Région Rhône-Alpes, Jean-Marie Chausson, le directeur des ressources informatiques de Montpellier Agglomération, Pierre Brice. Comment vous avez, et puis quelqu'un de chez Linagora aussi, Christophe Hammerling, comment vous avez constitué ce jury?
L'idée étant d'avoir à la fois des techniciens, des élus, des gens qui connaissent bien les collectivités, autour d'un écosystème qu'on connaît un peu, qui est à la fois du libre, du métier, et puis de l'informatique, parce qu'on voulait aussi voir comment les projets avaient été analysés en amont, l'analyse du besoin. Donc c'était intéressant d'avoir un jury un peu cosmopolite. Ça fonctionne assez bien.
Alors il y aura une dotation globale de 6 000 euros pour les sélectionnés, les vainqueurs, qui ont pendant 13 semaines cravaché dur, surtout ces derniers jours.
Oui, comme tout projet informatique ou comme tout projet en général, ils sont charrettes sur la dernière ligne droite. Effectivement, 6 000 euros de dotation, 3 000 pour le premier, 2 000 pour le deuxième et 1 000 pour le troisième. Mmh. C'est une belle somme pour des jeunes qui développent des projets. D'ailleurs, certains ont envie de continuer, hein, même s'ils ne gagnent pas. Ils ont annoncé, on continuera, ça nous intéresse.
Alors du coup, ça fait des adeptes du logiciel libre aussi?
Alors ça, c'est plus compliqué, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que dans les écoles, dans les universités, le libre, ils ne connaissent pas trop. Donc ils sont passionnés de programmation. Mais ensuite, quand on leur pose la question des licences, les réponses sont un peu plus confuses. Donc, il faudra leur apprendre ça.
Oui, d'où l'importance, c'est un des sujets chauds du moment, d'apprendre le code dès l'enseignement secondaire. Une bonne initiative.
C'est mon avis, oui.
On attend toujours ça.
Et ça, c'est plus compliqué. Et pour l'instant, effectivement, ni la priorité au livre sur les outils, et apparemment, l'enseignement, c'est... Ce sera pour un autre siècle.
Mmh. Oui, peut-être pour terminer, juste un commentaire d'actualité, on va dire. On a vu que le Sénat est sur le point de voter le texte tel quel en ce qui concerne la loi de refondation de l'école. Un avis?
C'est une catastrophe. Je crois que, pour le dire d'un mot, je crois qu'on est en train de refonder, non pas l'école, mais les industries numériques pour l'éducation et qu'elles ne seront pas en libre. Et je suis désolé que... à la fois le gouvernement et la représentation nationale ne voient pas que c'est l'école qu'il faut fonder et que l'école c'est une école qui est une école de la liberté. Elle n'est pas là pour fabriquer des esclaves ou des maîtres, elle est là pour fabriquer des hommes libres et le libre est justement là pour ça. Et je suis un petit peu désolé qu'on soit très très en recul à la fois par rapport aux promesses et puis à la fois par rapport aux conceptions que les élus devraient avoir de l'école.
François-Louis, merci beaucoup. On se fera un plaisir de recevoir dans une prochaine Divergence Numérique les lauréats de cette première édition du concours Crée ton appli libre. On vous souhaite une bonne fin de journée. J'imagine que vous êtes assez nombreux, il y a du monde.
Oui, pour l'instant on est à l'apéritif. On va réunir le jury à nouveau cet après-midi. Mais la journée va être longue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir.
Au revoir. Voilà, c'était François Elie, donc président de l'Adulact. On écoute un petit peu de musique et on part dans l'univers fou de l'impression 3D.
Островах до зари говори о часовых поясах. Впереди планеты всей, как евреев Моисей. Проводи, проводи в новый день, где чудеса, где могучий океан бьет японский барабан, провожая восход, поход, чтобы тот через несколько часов согревал родной Ростов и Кишинев. Социальных сетей на желанный покой пролетал над тайгой, тот упал на песок, принимая урок и богатство, что дарит Восток.
Un excellent groupe et peut-être à mettre dans notre escarcelle pour le Festival des Arts Numériques Libres 2014. Allez savoir.
Allez savoir.
Ah, tiens, bah oui, ça serait vraiment très bien. Alors si vous n'aimez pas la musique, eh bien tant pis pour vous, car le 21 juin c'est demain et vous allez en prendre plein les oreilles. Mais si vous préférez, si vous aimez les deux, parce que c'est vrai que vers Chakawanga, je pense que nous aurons les échos de la fête de la musique au 24 Boulevard Pasteur. Côté Kawanga, de 17h au lendemain 17h, ce sera les 24 heures de l'imprimante 3D, une initiative de l'association Lapsud. Et pour en parler avec nous, c'est Jacques Vatelier qui est avec nous, ou on dit peut-être Vatelier puisqu'il y a deux L. Alors, j'ouvre le micro, ça marchera mieux. Alors, comment on dit ? Vatelier ou Vatelier ?
On y va.
On y va. Eh bien, c'est parfait. Alors, peut-être une présentation de l'association Lapsud, une association loi 1901 composée de membres venant d'horizons assez différents, de tous les horizons, de 18 à 68 ans, une association qui s'est créée il y a combien de temps ?
Octobre 2012, donc elle est encore toute récente. Mais elle progresse à un rythme effréné, puisque à chaque ouverture que nous faisons, tous les mardis, tous les vendredis, on a des membres nouveaux. Et nous sommes actuellement plus de 80 membres. Mmh. Et je suis persuadé qu'avec la manifestation que nous allons faire ce week-end, nous allons dépasser les 100 membres très rapidement.
Oui, parce que là, pas beaucoup de mois d'existence, pardon, 250 followers sur Twitter, plus de 200 personnes dans la mailing list. C'est vrai, autour d'un projet qui est diablement d'actualité, drôlement sexy par les temps qui courent, le revival du do-it-yourself qui, lui, date pas d'hier, mais c'est vrai qu'avec les contrôleurs électroniques, l'open hardware, etc., il y a de plus en plus de gens qui finissent par comprendre que finalement, les produits qu'on achète, on peut aussi s'en emparer, puisque a priori, ils sont à nous, qu'on peut aussi les réparer, les détourner. Et une fois qu'ils ne marchent plus, on peut récupérer certaines pièces pour faire d'autres choses avec. Et ça a le vent en poupe en ce moment.
Tout à fait, oui. On peut dire que l'imprimante 3D est à la mode, tout le monde en parle. C'est une véritable curiosité. Et on doit quand même aller au-delà de ce qui se dit ou de ce qui ne se dit pas. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire cette manifestation pendant 24 heures pour expliquer, pour montrer, pour aider tous ceux qui veulent construire ou posséder une imprimante 3D. Bien sûr, on parle d'imprimante 3D personnelle en opposition au système qui existait il y a plus longtemps dans le monde professionnel, industriel.
De l'industrie. Alors, nonobstant, il y a quand même plusieurs procédés actuellement pour les imprimantes 3D qui sont assez divers finalement, même si la plupart d'entre eux reposent un petit peu sur de déposer de la matière couche par couche pour finir par faire un objet.
Alors, la technique là de déposer couche par couche reste la même. Les matières vont être différentes. On va avoir différents types de matières. Et puis, pourquoi pas, derrière les matières plastiques qui sont essentiellement utilisées, on a vu que quelques essais ou quelques amusements du style mettre du chocolat, fabriquer des plats. Et il n'y a pas, en fin de compte, on ne connaît pas encore toutes les limites de ce que l'on peut faire.
On envisage même d'en installer une sur la Lune pour construire des bâtiments directement à partir des matériaux présents sur place. Ça fait rêver.
Oui, le budget là est considérable, mais on n'est plus tout à fait dans le domaine de l'imprimante personnelle. On est là dans un autre domaine qui est bien loin de notre monde à nous, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, Nous travaillons essentiellement avec des plans, des produits, des logiciels qui sont issus du monde libre. C'est un autre monde.
Voilà. Alors, pendant ces 24 heures, il va s'agir en fait d'emmener les gens à partir du dessin jusqu'à l'objet imprimé. J'imagine que chaque étape a son importance. Quels outils sont utilisés déjà pour le dessin lui-même, mis à part le crayon et le papier ?
Alors, il est évident qu'il faut dépasser le stade du papier et on va concevoir l'objet 3D à travers des logiciels et à travers des logiciels libres. C'est la raison pour laquelle il y aura un atelier spécifique sur le dessin 3D qui est la première phase et avec différents intervenants sur SketchUp, sur FreeCAD, sur OpenSCAD.
Ou Blender
Blender également. Donc sous toutes sortes de logiciels libres à partir desquels on va construire déjà l'objet, le transformer en format STL qui va être ensuite interprété par l'imprimante et mise en couche pour pouvoir être déposé sur le plateau de l'imprimante. Mmh.
Un format de fichier STL qui est le seul pour réaliser des objets en 3D ? Un format de fichier, les fichiers STL, est-ce que c'est le seul format ouvert, on va dire, pour ce type d'application ?
Alors, nous transformons les différents formats de fichiers des dessins 3D que nous avons, nous les transformons en STL.
D'accord. Alors, il y aura aussi des artistes, il y aura aussi la réalisation d'objets d'artistes par eux-mêmes ou pour eux-mêmes. Là, c'est des gens qui viennent plutôt du monde des arts plastiques.
Tout à fait. Et ce qu'il faut signaler, c'est que pour la réalisation d'objets artistiques, l'imprimante 3D offre des choses assez extraordinaires. Il n'y a pas de limite, puisqu'on va pouvoir fabriquer des objets 3D et avec des ouvertures dans tous les sens, des creux n'importe où. On travaille, il faut le savoir, par ajout de matière, à l'opposition de l'usinage traditionnel qui, lui, travaille par enlèvement de matière. C'est la grosse différence qu'il y a entre l'usinage traditionnel et l'imprimante 3D.
Alors, les imprimantes 3D auto-réplicantes seront aussi abordées, si je comprends bien, ce sont des imprimantes qui impriment des imprimantes ?
Alors, nous avons déjà réalisé au sein de l'APSUD un premier atelier regroupant 6 personnes qui ont voulu construire leur imprimante 3D. Nous leur avons fourni un kit et à l'occasion de soirées, nous avons progressivement construit, enfin, où ces 6 membres ont construit leur imprimante 3D. Elles sont aujourd'hui finies, elles fonctionnent toutes, et ils vont se regrouper dans un atelier pour, à leur tour, aller fabriquer les pièces en plastique imprimées pour pouvoir fabriquer de nouvelles imprimantes.
Et puis, une question, comment on fait la première imprimante 3D, finalement ?
Comment on fait la poule ?
La poule ou l'œuf ?
À peu près comme la poule et l'œuf.
C'est ça, parce que j'ai vu des imprimantes 3D chez vous, faites, des pièces faites avec des imprimantes à côté, les sœurs. Hein. Donc, c'est assez intéressant de voir que les pièces servent, disons, ont été fabriquées par des imprimantes, etc.
La notion de transmission. Tout à fait, les pièces ont été fabriquées par les imprimantes, mais bien sûr, il faut un début. Donc, les premières pièces ont été moulées, ont été faites par d'autres techniques pour la première, mais disons qu'aujourd'hui, nous travaillons en auto-réplication.
Mmh. Et puis, oui, Pascal. Excusez-moi. Il y a différents types d'imprimantes 3D, parce que j'en avais vu avec justement un plateau qui se déplace, avec des bras qui se déplacent aussi, différentes techniques pour modéliser en fait la notion dans l'espace.
Alors, l'imprimante 3D va travailler sur les 3 axes, X, Y et puis le Z. Donc, on va pouvoir avoir soit la tête d'impression qui va être fixe et on va avoir à ce moment-là un tableau qui va se déplacer, mais où on va avoir une tête qui va, elle, se déplacer. Mais dans la plupart des cas, nous avons en fin de compte les deux systèmes qui cohabitent. On va avoir une partie de l'imprimante 3D... La plupart de celles que nous avons ont une tête qui se déplace sur le sens XY et un déplacement se fait dans l'autre sens sur le Z.
Du plateau.
Mmh. Du plateau.
Ouais, d'accord.
Et puis il y aura aussi un clinicien de l'impression 3D, la clinique des imprimantes 3D avec le docteur Jean-Philippe C. Mais qui est donc ce docteur Jean-Philippe C?
Alors, c'est notre président, c'est Jean-Philippe Civade qui est quand même, il faut le rappeler, à l'origine du lancement de l'association L'APSUD et qui a une solide expérience, une profonde connaissance et qui a été le premier à réaliser, en fin de compte, l'imprimante 3D. Nous sommes derrière lui, tous, les uns et les autres. Compte tenu de son expérience, il va apporter des solutions. Nous avons des gens qui viennent de la région de Marseille, qui se sont inscrits pour venir car ils ont des problèmes. Mmh. De nombreuses personnes aujourd'hui achètent des kits qui sont vendus et tous n'arrivent pas à mener à leur terme la fabrication, le réglage. Le réglage est assez fin, mmh. car on va avoir du réglage mécanique, on va avoir du réglage électronique, on va avoir du réglage informatique. Donc tout ceci n'est quand même pas très simple pour celui qui est isolé, seul dans son coin, il n'a pas toujours beaucoup d'aide. C'est la raison pour laquelle donc, nous sommes là pour aussi leur apporter une solution à leurs problèmes.
Oui, d'autant que ce sont des technologies quand même qui requièrent un degré de précision de l'ordre, je sais pas moi, du dixième de millimètre pour que ce soit à peu près propre.
Eh bien, on fait le dixième de millimètre, mais on réussit à descendre plus bas encore. Mm-hmm. Mais il faut savoir que plus on descend en précision, plus l'objet sera précis, plus il sera de qualité, mais en contrepartie, plus longue sera l'impression. Donc les heures, là, vont se multiplier.
Alors pendant ces 24 heures d'impression 3D, il y aura aussi la construction d'une imprimante 3D de A à Z. Donc si vous ne voulez pas en perdre une miette, c'est du 21-17h au 22-17h. Il y aura une pause dans la nuit, on l'a dit, entre 2h et 9h, 10h du matin. C'est à Kawenga, donc non loin de la radio. Peut-être pour se quitter, un mot sur les autres activités de l'Absud. Et où est-ce qu'on vous trouve? Est-ce que vous avez un local où les gens peuvent vous rencontrer régulièrement?
Alors, jusqu'à présent, nous avions nos soirées tous les mardis, tous les vendredis soirs dans les locaux de Kawenga. Mm-hmm. Mais comme je vous l'indiquais tout à l'heure, notre développement est tel, c'est qu'on prend de plus en plus de place et que, hélas, nous ne pouvons pas poursuivre, on ne peut pas continuer d'être hébergé par Kawenga et nous sommes aujourd'hui à la recherche de nouveaux locaux, de plus d'espace et pour pouvoir avoir d'autres machines que celles que nous possédons actuellement. Car l'imprimante 3D n'est pas le seul volet des activités de l'Absud. Nous avons une fraiseuse, nous sommes en train de l'équiper pour qu'elle soit numérique. Nous devrions avoir prochainement une machine à découpe laser, ainsi que donc, d'autres produits à vocation et fonctionnement numérique pour réaliser, en fin de compte, toutes sortes d'objets.
C'est www.labsud.org. On se réjouit qu'il y ait tant d'engouement sur cette association. À quand un Tétalab montpelliérain, on y travaille. On va se quitter là car l'heure tourne, avant de se quitter avec Zenith, toujours un extrait de l'album de ce groupe russe OPA en licence Creative Commons by NCND 3.0. Pascal, quelques new news, quelques rendez-vous pour se quitter avec ce 20 juin ce soir de 17 à 18h. Si vous écoutez la rediffusion de cette émission, hâtez-vous. Atelier Gimp à Téhéran. Ce soir.
Oui, tout à fait. Et puis, mercredi 26 juin, de 19 à 21h, le groupe OSM Montpellier se réunit mensuellement au Coworking Montpellier, 22 rue de la République.
OpenStreetMap,
bien sûr. Carte au parti Malbosque aussi, samedi le 22, à partir de 14h, réunion à la maison Mélina. Pas Mélina Mercouri, à la maison Rosalie Parks à Malbosque.
Et si vous ratez l'atelier GIMP de ce soir, il y en aura un autre vendredi 28 de 18 à 20h. Ce sera là, pour le coup, à Mélina Mercouri, 842 Absolument. Rue de la Vieille Poste à Montpellier.
Suivi du rendez-vous du libre mensuel dernier vendredi du mois, le 28 juin.
Voilà, et bien on va se quitter avec un autre titre de OPA, ça s'appelle Zénith. On vous souhaite une excellente semaine de rester libre. On salue les auditeurs de Radio Larzac et Radio Escapade et on se quitte donc avec ce titre. Retrouvez cet excellent groupe sur www.o-p-a.ru.
On parlera peut-être des rencontres mondiales la semaine prochaine.
Eh bien oui, je crois qu'il serait temps. Il serait temps. Le temps tourne. Restez libre et bonne semaine à toutes et tous. Ciao.
Merci pour cette année de nous avoir reçus.
пришли на стадион. На траву выходит он, синий-бело-голубой. Слышишь песню над него?
Наш «Зенит» чемпион, подпевает стадион. Нужен гол, нужен гол, мы за питерский футбол. Наш «Зенит» чемпион, подпевает стадион. Нужен гол, нужен гол, мы за питерский футбол. Мы в холод и в жару за красивую игру до последнего свистка. Наши флаги в облаках.